the conference center at
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, au début de cette première session de la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous vous souhaitons la bienvenue et tout particulièrement aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence ici au centre de conférence et partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et des présidences générales des auxiliaires qui assistent à cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mark Wilberg, avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Douce est la tâche » et interprétera maintenant « Vrais disciples du Seigneur ». Ensuite, Yoshihiko Kikuchi, des 70, fera la prière d'ouverture.
Holy Heavenly Father,
Notre Père Saint, qui es aux cieux, nous t'exprimons notre amour, nous t'aimons. Nous aimons ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous exprimons la plus profonde gratitude pour le président Monson, pour sa vie. Veuille, Père, le bénir et le soutenir pendant cette conférence générale et les années à venir. Nous te prions pour que ton Saint-Esprit nous accompagne pendant ces deux journées de conférence générale. Puissions-nous prêter attention aux paroles des oracles vivants, aux prophètes et apôtres et autres orateurs. Puissions-nous continuer de nous efforcer à nous sanctifier, à être sanctifiés en gardant tes commandements. Nous te prions pour que ton Saint-Esprit règne pendant cette conférence au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas Monson, président de l'Église. Après son discours, le chœur chantera « Ce jour au chœur j'ai du soleil ». Après le cantique, Bodka Packer, président du Collège des Douze Apôtres, nous adressera la parole. Il sera suivi de Julie B. Beck, présidente générale de la Société de Secours. Après son discours, Keith B. McMullen, de l'Épiscopat président, s'adressera à nous.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Mes frères et sœurs bien-aimés, quel plaisir d'être de nouveau assemblés. Cette conférence marque le 180e anniversaire de l'organisation de l'Église. Comme nous sommes reconnaissants à Joseph Smith, le prophète, qui a recherché la vérité, qu'il a trouvée, et qui, sous la direction du Seigneur, a rétabli l'Évangile et organisé l'Église. L'Église a grandi continuellement depuis ce jour de 1830. Elle continue de changer la vie de plus en plus de personnes chaque année et de se répandre sur terre à mesure que notre force missionnaire trouve les personnes qui recherchent la vérité. Une fois encore, nous appelons les membres de l'Église à tendre la main aux nouveaux convertis, aux membres qui reviennent dans l'Église, à les entourer d'amour et à les aider à s'y sentir chez eux. Merci, mes frères et sœurs, de votre foi et de votre dévouement à l'Évangile de Jésus-Christ. Merci de tout ce que vous faites dans vos paroisses et vos branches, dans vos pieux et vos districts. Vous servez volontiers et excellemment, et vous faites beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse dans vos efforts pour le suivre et obéir à ses commandements. Depuis la dernière fois où nous nous sommes réunis, l'Église a continué d'apporter une aide humanitaire bien nécessaire dans différents endroits du monde. Rien qu'au cours des trois derniers mois, nous avons apporté de l'aide humanitaire, entre autres, en Polynésie française, en Mongolie, en Bolivie, au Pérou, en Arizona, au Mexique, au Portugal et en Ouganda, et d'autres endroits encore. Tout récemment, nous avons aidé en Haïti et au Chili à la suite des séismes et des raz de marée qui ont dévasté ces régions. Nous exprimons notre amour aux membres de notre Église qui ont souffert au cours de ces catastrophes. Vous êtes dans nos prières. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à vous tous qui êtes disposés à soutenir nos efforts humanitaires en partageant vos ressources et dans de nombreux cas, en faisant don de votre temps, de votre talent et de votre savoir-faire. Cette année, il y a 25 ans que notre programme humanitaire a été intégré à notre effort d'entraide. Le nombre de gens qui ont bénéficié de ce programme est incalculable. Nous nous efforcerons toujours d'être parmi les premiers sur le théâtre des catastrophes, où qu'elles se produisent. L'Église continue de grandir et d'avancer. La construction de temples est l'indication de cette croissance. Récemment, nous avons annoncé qu'un nouveau temple sera construit à Payson, en Utah. Nous avons aussi annoncé que le temple d'Ogden, en Utah, subira de grandes rénovations. Au cours des 3 prochains mois, nous consacrerons de nouveaux temples à Vancouver, en Colombie-Britannique, dans la Gila Valley, en Arizona, et à Cebu City, aux Philippines. Plus tard cette année, d'autres temples seront consacrés ou reconsacrés. Nous continuerons de construire des temples dans le monde entier, au fur et à mesure que le nombre de nos membres grandira. Chaque année, dans les temples, il s'accomplit des millions d'ordonnances pour nos chers disparus. Puissions-nous continuer d'être fidèles à accomplir ces ordonnances pour les personnes qui ne peuvent pas le faire pour elles-mêmes. Beaucoup d'entre vous savent que, peu après la conférence d'octobre, ma chère femme, Frances, a fait une chute dans laquelle elle s'est cassée la hanche et l'épaule. Après 2 opérations réussies et plusieurs semaines d'hospitalisation, elle a pu rentrer à la maison. Elle va bien et continue de progresser vers la guérison complète. Elle a pu assister à la réunion générale des jeunes filles samedi dernier et elle envisage d'assister à une session ou deux ce week-end. En fait, elle m'a même dit à la dernière minute, « Je viendrai aujourd'hui » et elle est là. Et ainsi que notre chère fille qui nous rejoint pour cette session. Ah là là, ces filles suédoises, je vous dis. Spécialement quand elle s'appelle Sœur Johnson. Et je suis reconnaissant à ce missionnaire qui a amené cette famille complète dans l'église.
Went to the bedroom and opened a drawer to a dresser and brought out some pictures. And he said, "Are you related to this Monson?"
Le grand-père de ma femme a ouvert un tiroir quand il a entendu mon nom. Il a demandé si j'étais parent avec ce Monson qui a apporté l'évangile à sa famille. Il a dit, c'est un des missionnaires qui a apporté l'évangile à mon père, ma mère, à mes frères et sœurs et à moi. Où serions-nous sans lui et son compagnon? Puis, il m'a embrassé sur la joue. Sa première sortie avec la fille. Et sa mère, qui était également suédoise, m'a embrassé sur l'autre joue. Et ma chère Francis m'a dit, « J'ai cherché mon manteau, nous allons partir. » Francis va me rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui. Quand nous allons partir aujourd'hui, elle va demander pourquoi as-tu voulu partir, parler de ça aujourd'hui. Elle est formidable. Elle me dira certainement, je t'en prie, n'en dis pas plus. Lorsque nous étions étudiants en première année à l'université d'Utah, nous aimions autant l'un que l'autre. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, quand j'ai dû partir, elle a dit, tu es plus beau, je préfère dans ton uniforme de la marine, et c'est pour ça que je me suis engagé dans la marine. Mais avec moi,
elle se joint donc à moi pour exprimer notre profonde reconnaissance à notre Père Céleste et à vous pour vos prières en sa faveur et à vos voeux à son égard. Frères et sœurs, nous nous sommes réunis pour recevoir des enseignements et de l'inspiration. Nous souhaitons la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont nouveaux dans l'Église. D'autres parmi vous affrontent des problèmes, des difficultés, des déceptions, subissent des deuils. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Beaucoup de messages couvrant divers sujets de l'Évangile seront donnés au cours des 2 prochains jours. Les hommes et les femmes qui s'adresseront à vous ont recherché l'aide de notre Père Céleste concernant les messages qu'ils vont vous délivrer. Je prie que nous soyons remplis de son esprit, tandis que nous écouterons et apprendrons. Puisse-t-il en être ainsi? C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Je m'adresse aux pères, aux familles, partout dans le monde. Il y a des années, nous avons commencé la coordination dans l'Église sous la direction du président Lee. À cette époque, Thomas S. Monson, le président de l'Église, a dit « Nous faisons face aujourd'hui au plus grand déploiement de péché, de vice et de mal, jamais assemblé sous nos yeux. Le plan de bataille que nous sauvons pour sauver l'âme des hommes n'est pas le nôtre. » Il nous vient de l'inspiration et de la révélation du Seigneur. Au cours de ces années de coloration, de coordination, tout le fonctionnement de l'Église a été changé. Tout le programme d'enseignement a été restructuré. Les objectifs des organisations et leurs liens entre elles ont été redéfinis. Pendant ces années de coordination et de restructuration, le mot-clé était la prêtrise. Le président Monson a également parlé de Gédéon, héros de l'Ancien Testament. Ce dernier avait été choisi pour conduire les armées d'Israël, fort de milliers de soldats. Mais parmi eux tous, il ne choisit que 300 hommes. Il eut une manière intéressante de choisir ses recrues. Quand les hommes buvaient de l'eau au ruisseau, la plupart se mettaient à genoux pour boire. Ceux-là, il ne les prit pas. Quelques-uns prenaient l'eau dans leurs mains et buvaient, restant complètement vigilant. ce sont eux qui furent choisis. Nous vivons une époque de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre en divers lieux. Comme cela t'est prophétisé, toute la terre est en tumulte, et Satan est de tous côtés dans le pays. Il cherche à détruire tout ce qui est bon et juste. Il est Lucifer, qui a été chassé de la présence de Dieu. Malgré tout cela, nous sommes très optimistes quant à l'avenir. La petite force de Gédéon réussit, car comme l'indique le récit, les soldats restèrent chacun à sa place. Cette dispensation de la plénitude des temps s'est ouverte avec l'apparition du Père et du Fils au jeune Joseph Smith. Ensuite, l'ange Moroni montra à Joseph où étaient enfouies les plaques contenant le livre de Mormon. Joseph reçut le pouvoir de les traduire. Pendant la traduction, Joseph et Oliver Cowdery ont lu un passage concernant le baptême. Ils ont prié pour savoir quoi faire. Un ange messager du nom de Jean-Baptiste leur est apparu. Il leur a conféré la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les plus proches du Seigneur dans son ministère, sont apparus ensuite et ont conféré à Joseph Oliver la prêtrise supérieure, ou sainte prêtrise, selon l'ordre du Fils de Dieu. Les Écritures indiquent que cette prêtrise devait porter le nom de Melchizedek, le grand prêtre à qui Abraham avait payé la dîme. C'est alors devenu leur autorité. Grâce aux clés de la prêtrise, ils avaient accès à tous les pouvoirs des cieux. Ils ont reçu le commandement de porter l'Évangile à toutes les nations. Il n'a jamais été facile de vivre conformément à l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'était pas facile quand il vivait. Ce n'était pas facile non plus au premier jour de l'Église. Les premiers saints ont été exposés à une souffrance et une opposition indescriptible. Cela fait plus de 180 ans que la prêtrise a été rétablie. Nous sommes maintenant près de 14 millions de membres. Cependant, nous représentons un tout petit nombre comparé aux milliards de personnes qui sont sur Terre. Mais nous sommes ce que nous sommes. Nous savons ce que nous savons. Et nous devons aller prêcher l'Évangile. Le livre de Mormon indique clairement que nous ne serons jamais les plus importants en nombre. Mais nous avons le pouvoir de la prêtrise. Le prophète Néphi a écrit, « Il arriva que je vis l'église de l'agneau de Dieu. » Et ses membres n'étaient qu'un petit nombre. Néanmoins, je vis que l'église de l'agneau, qui était constituée par les saints de Dieu, était aussi sur toute la surface de la terre. Et ses possessions sur la surface de la terre étaient petites. Joseph Felix Smith a dit, même si l'on peut dire que nous ne sommes qu'une poignée de personnes par rapport au monde, nous pouvons cependant être comparés au levain dont le Sauveur a parlé, qui finira par faire lever le monde entier. Nous pouvons influencer toute l'humanité, et en temps voulu, c'est ce que nous ferons. On saura qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Cela peut sembler désespéré, et c'est extrêmement difficile, mais il est non seulement possible, mais aussi certain, que nous gagnerons la bataille contre Satan. Il y a quelques années, j'ai fait un discours intitulé « Ce que chaque ancien doit savoir », ABC des principes de gouvernement de la prêtrise. Plus tard, quand il était publié, j'ai changé le titre pour qu'il devienne « Ce que chaque ancien, ainsi que chaque sœur, doit savoir ». J'inclus les sœurs parce qu'il est essentiel que tout le monde comprenne ce qui est attendu des frères. Si nous n'avons pas l'attention des mères, des filles et des sœurs qui ont de l'influence sur leurs maris, leurs pères, leurs fils et leurs frères, nous ne pouvons pas progresser. La prêtrise perdra beaucoup de pouvoir si les sœurs sont négligées. La prêtrise est l'autorité et le pouvoir que Dieu a accordé aux hommes sur la terre pour agir pour lui. Quand ils exercent correctement l'autorité de la prêtrise, les détenteurs de la prêtrise font ce que Dieu ferait s'il était présent. Nous avons bien réussi à distribuer l'autorité de la prêtrise. Elle est implantée presque partout. Nous avons des collèges d'anciens et de grands prêtres dans le monde entier. Mais je pense que la distribution de l'autorité de la prêtrise s'est faite plus vite que celle du pouvoir de la prêtrise. La prêtrise n'a pas la force qu'elle devrait avoir et ne l'aura pas tant que le pouvoir de la prêtrise ne sera pas fermement implanté dans les familles comme il devrait l'être. Harold Bailey a déclaré « Il me paraît clair que l'Église n'a pas d'autre choix et on n'a jamais eu que de faire plus pour la famille, pour qu'elle remplisse sa mission divine. Non seulement parce que c'est l'ordre des cieux, mais aussi parce que c'est la chose la plus sensée que nous puissions faire pour nos jeunes, contribuer à améliorer la qualité des foyers des saints des derniers jours. Aussi important que soient nos programmes et nos efforts d'organisation, ils ne doivent pas prendre le pas sur le foyer, mais le soutenir. Joseph F. Smith a fait la déclaration suivante concernant la prêtrise au foyer. Au foyer, l'autorité présidente est conférée au père. Et il n'y a pas d'autorité supérieure dans tout ce qui concerne le foyer et la famille. Pour illustrer ce principe, une simple anecdote suffira peut-être. Il arrive parfois que les anciens soient appelés pour bénir les membres d'une famille. Parmi ces anciens, il peut y avoir des présidents de pieux, des apôtres, ou même des membres de la première présidence de l'Église. Il ne convient pas, dans ces circonstances, que le père se tienne à l'écart et attende des anciens qui dirigent le déroulement de cette importante ordonnance. Le père est là. C'est son droit et son devoir de présider. Il doit choisir le frère qui va faire l'onction et celui qui va faire la prière. Il ne doit pas penser que la présence des autorités présidentes de l'Église le prive de ses droits de diriger le déroulement de ses bénédictions d'Évangile dans son foyer. Si le père est absent, la mère doit demander à l'autorité présidente présente d'en assumer la direction. Le père préside à table lors de la prière et donne des directions générales au sujet de la vie familiale, quelles que soient les personnes présentes. Pendant la guerre du Vietnam, nous avons eu plusieurs réunions spéciales pour les membres de l'Église appelés sous les drapeaux. Après l'une de ces réunions à Chicago, je me tenais près d'Harold Bailey quand un jeune saint des derniers jours, admirable, lui a dit qu'il était en permission pour voir sa famille, puis qu'il partirait au Vietnam. Il a demandé au président Lee de lui donner une bénédiction. À ma grande surprise, celui-ci a répondu, « C'est votre père qui doit vous donner cette bénédiction. » Très déçu, le jeune homme lui a dit, « Mon père ne saurait pas comment donner une bénédiction. » Le président Lee lui a répondu, « Rentrez chez vous, mon garçon, et dites à votre père que vous allez partir à la guerre et que vous voulez qu'il vous donne une bénédiction paternelle. S'il ne sait pas comment faire, dites-lui que vous allez vous asseoir sur une chaise, qu'il peut se tenir derrière vous, debout, et poser les mains sur votre tête et dire ce qui lui viendra à l'esprit. » Le jeune soldat s'en est allé tout triste. Environ 2 ans plus tard, je l'ai rencontré de nouveau, je ne me souviens pas où. Il m'a rappelé cette expérience et m'a dit, « J'ai fait ce qu'on m'a dit. » J'ai expliqué à mon père que je l'allais m'asseoir sur la chaise et qu'il devait poser les mains sur ma tête. Le pouvoir de la prêtrise nous a remplis tous les deux. Cela a été une force et une protection pendant ces dangereux mois de bataille. Un autre jour, j'étais dans une ville éloignée. Après une conférence, nous ordonnions et mettions à part des dirigeants. Alors que nous terminions, le président de Pew a demandé, « Pouvons-nous ordonner à l'office d'ancien un jeune homme qui va partir en mission ?» Bien évidemment, la réponse était oui. Lorsque le jeune homme s'est présenté, il a fait signe à 3 frères de le suivre pour participer à son ordination. Au dernier rang, j'ai remarqué une copie conforme de ce garçon. J'ai demandé, « Est-ce votre père ?» Le jeune homme a répondu oui. Je lui ai dit, « C'est votre père qui va vous ordonner. » Il a protesté. « Mais j'ai déjà demandé à un autre frère de m'ordonner. » Je lui ai dit, « Jeune homme, c'est votre père qui va vous ordonner. Et toute votre vie, vous remercierez le Seigneur pour ce jour. » Le père s'est alors avancé. Heureusement, il était ancien. S'il n'avait pas été, il aurait pu devenir très vite. À l'armée, on appellerait cela une promotion sur le champ de bataille. On fait parfois ce genre de choses dans l'Église. Le père ne savait pas comment ordonner son fils. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et je l'ai guidé pendant toute l'ordonnance. Quand il avait fini, le jeune homme était ancien. Il s'est alors produit quelque chose de merveilleux. Métamorphosé, le père et le fils se sont pris dans les bras. Il était clair que cela ne s'était jamais produit auparavant. Le père, en larmes, a dit « Je n'ai pas eu l'occasion d'ordonner mes autres garçons. » Pensez à ce qui était accompli. C'était bien plus que si quelqu'un d'autre l'avait ordonné, même un apôtre. Maintenant que la prêtrise est dans le monde entier, nous demandons à tous les anciens, à tous les grands prêtres, à tous les détenteurs de la prêtrise, de rester chacun à sa place, comme les 300 hommes de l'armée de Gédéon, qui étaient petites mais puissantes. Mais nous devons maintenant réveiller en chaque ancien, en chaque grand prêtre, dans chaque collège, dans chaque groupe et en chaque père de famille, le pouvoir de la prêtrise du Tout-Puissant. Le Seigneur a dit, les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes. Le prophète Néphi a dit aussi que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur qui était dispersé sur toute la surface de la terre. Il ajoutait, ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Nous avons besoin de tout le monde, les fatigués, les épuisés, les paresseux, et même ceux qui sont través par la culpabilité doivent être rétablis par le repentir et le pardon. Trop de nos frères de la prêtrise vivent en deçà de leurs droits sacrés et des attentes du Seigneur. Nous devons aller de l'avant, confiants dans le pouvoir divin de la prêtrise. C'est une source de force et d'encouragement que de savoir qui nous sommes, ce que nous avons, et ce que nous devons faire dans l'œuvre du Tout-Puissant. Le Seigneur a dit, « Moi, Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Les collèges de la prêtrise doivent veiller sur les foyers qui n'ont pas la prêtrise, et pourvoir leurs besoins. De cette façon, aucune demeure de l'Église ne manquera de bénédiction. Il y a des années, les membres d'une famille se sont rassemblés au chevet d'une petite femme danoise âgée. Parmi eux se trouvait son fils d'une cinquantaine d'années. Il s'était éloigné du chemin. Il avait vécu chez sa mère pendant les années qui avaient précédé. Larmes aux yeux, elle a supplié, « Maman, tu dois vivre. Maman, tu ne peux pas mourir. » Il a ajouté, « Maman, tu ne peux pas t'en aller. Je ne te laisserai pas partir. » La petite mère a levé les yeux vers son fils et a demandé avec son accent danois, « Mais où est ton pouvoir ? Où est ton pouvoir ?» Paul a dit, « Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'œuvre du Seigneur prévaudra, cela ne fait aucun doute. Nous devons rassembler tous nos efforts et nous unir. C'est un fait acquis. L'autorité de la prêtrise est avec nous. Après tout ce que nous avons coordonné et organisé, il nous incombe maintenant d'activer le pouvoir de la prêtrise dans l'Église. L'autorité de la prêtrise vient d'ordination. Le pouvoir de la prêtrise vient du respect fidèle et obéissant des alliances. Il augmente lorsqu'on exerce la prêtrise en justice. Père, je vous rappelle la nature sacrée de votre appel. Le pouvoir de la prêtrise vous vient directement du Seigneur pour protéger votre foyer. Dans certains cas, tout ce qui restera comme bouclier entre votre famille et la malice de l'adversaire sera ce pouvoir. Vous recevrez des directives du Seigneur grâce au don du Saint-Esprit. L'adversaire ne trouble pas activement nos réunions de l'Église, peut-être seulement à l'occasion. Dans l'ensemble, nous sommes libres de nous assembler comme nous souhaitons, sans trop de perturbations. Mais ses partisans et lui attaquent constamment le foyer et la famille. Le but ultime de toute activité dans l'Église est qu'un homme, sa femme et leurs enfants soient heureux au foyer, protégés par les principes et les lois de l'Évangile, dans la sécurité des alliances de la prêtrise éternelle par laquelle ils sont scellés. Toutes les lois, tous les principes, tous les pouvoirs, toutes les croyances, toutes les ordonnances et les ordinations, toutes les alliances, tous les sermons et toutes les saintes scènes, tous les conseils, toutes les corrections, les scellements, les appels, les relèves, le service, toutes ces choses ont pour but ultime la perfection de la personne et de la famille. Car le Seigneur a dit, « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Il en sera ainsi. Je témoigne du pour la prêtrise, donnée à l'Église, pour nous protéger et nous guider. Parce que nous l'avons, nous n'avons pas peur de l'avenir. La peur est l'opposé de la foi. Nous savons que le Seigneur veille sur nous et notre famille. Je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Durant l'année passée, j'ai rencontré des milliers de saints des derniers jours dans de nombreux pays. La liste des difficultés rencontrées par ces sœurs est longue et donne à réfléchir. Il y a les problèmes familiaux, les difficultés financières, les catastrophes, les accidents et les maladies. Il y a beaucoup de préoccupations et pas assez de paix et de joie. Bien que les messages des médias populaires disent le contraire, personne n'est assez riche, assez beau, assez intelligent pour éviter les difficultés de la condition mortelle. Les questions posées par les sœurs sont graves et profondes. Elles expriment de l'inquiétude pour l'avenir, du chagrin pour les attentes qui ne se réalisent pas, de l'indécision et de la perte d'estime de soi. Elles reflètent aussi un profond désir de faire le bien. J'ai acquis un immense témoignage de la valeur des filles de Dieu. Tant de choses dépendent d'elles. En rendant visite aux sœurs, j'ai senti qu'il n'y avait jamais eu aussi grand besoin de faire grandir la foi et la justice personnelle. Il n'y a jamais eu un aussi grand besoin de familles fortes et de foyers forts. Il n'y a jamais eu autant à faire pour aider les gens dans le besoin. Comment peut-on augmenter la foi, fortifier la famille et apporter du secours? Comment une femme d'aujourd'hui peut-elle trouver la réponse à ces questions et rester forte et inébranlable face à une opposition et à des difficultés incroyables? Une femme sage sait qu'elle n'a pas suffisamment d'énergie, de temps ou de possibilités pour s'occuper de tout le monde ou faire toutes les bonnes choses que son cœur aspire à faire. Pour la plupart des femmes, la vie n'est pas calme et il semble que chaque jour, il faille accomplir un million de choses, dont la plupart sont importantes. Une femme sage doit constamment résister aux messages séducteurs et trompeurs venus de toutes parts, qui lui disent qu'elle a le droit de se détacher plus souvent de ses responsabilités et qu'elle mérite une vie plus facile et plus indépendante. Mais avec la révélation personnelle, elle peut établir correctement ses priorités et avancer dans la vie avec confiance. La capacité de se qualifier pour la révélation personnelle, de la recevoir et d'agir en conséquence est la compétence la plus importante que l'on puisse acquérir dans cette vie. Pour se qualifier, pour recevoir l'Esprit du Seigneur, il faut d'abord en avoir le désir, et cela implique un certain degré de dignité. Le respect des commandements, le repentir et le renouvellement des alliances faites lors du baptême mènent à la bénédiction d'avoir toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. Le respect des alliances contractées au temple ajoute aussi de la force et de la puissance spirituelle dans la vie d'une femme. On trouve la réponse à de nombreuses questions difficiles en lisant les Écritures, parce que celles-ci sont une aide à la révélation. Les idées que l'on trouve dans les Écritures s'accumulent avec le temps, de sorte qu'il est important de passer quotidiennement un peu de temps dans les Écritures. La prière quotidienne est également essentielle pour avoir l'Esprit du Seigneur. Les gens qui recherchent sincèrement de l'aide par la prière et l'étude des Écritures ont souvent un papier et un crayon sous la main pour écrire des questions et noter leurs impressions et leurs idées. On reçoit souvent la révélation, heure par heure, et d'un moment à l'autre, quand on fait ce qui est juste. Quand les femmes éduquent comme le Christ l'a fait, un pouvoir et une paix peuvent leur être accordés pour les guider quand elles ont besoin d'aide. Par exemple, les mères peuvent ressentir l'aide de l'esprit même lorsqu'elles sont fatiguées, quand des enfants bruyants réclament à grands cris leur attention. Mais elles peuvent s'éloigner de l'esprit si elles se mettent en colère contre les enfants. Le fait d'être aux bons endroits nous permet aussi d'être guidés. Il faut faire un effort de volonté pour diminuer ce qui peut nous détourner. En ayant l'esprit de révélation, on peut vaincre l'opposition et garder la foi dans les jours difficiles et dans les tâches routinières essentielles. La révélation personnelle nous donne la compréhension de ce qu'il faut faire quotidiennement pour augmenter notre foi et notre justice, pour fortifier la famille et le foyer, et pour rechercher les gens qui ont besoin de notre aide. La révélation personnelle étant une source de force constamment renouvelable, il est possible de se sentir entouré d'aide même dans les moments difficiles. Il nous est dit de placer notre confiance en cet esprit qui nous conduit à agir en justice, à marcher dans l'humilité et à juger avec droiture. Il nous est dit aussi que cet esprit éclairera notre intelligence, remplira notre âme de joie et nous fera connaître tout ce que nous devons faire. La promesse de révélation personnelle se réalise quand nous la demandons, quand nous nous préparons pour la recevoir et quand nous allons de l'avant avec foi, croyant qu'elle se répandra sur nous. De plus, le Seigneur, dans sa sagesse, a donné une société de secours pour aider ses filles dans ces derniers jours. Quand elle fonctionne de manière inspirée, la société de secours élève les femmes en les faisant passer d'un monde troublé à une vie qui les prépare aux bénédictions de la vie éternelle. La responsabilité principale de la société de secours est d'aider les sœurs à faire grandir leur foi et leur justice, à fortifier la famille et le foyer et à rechercher et aider les gens dans le besoin. Grâce à la société de secours, les femmes peuvent trouver la réponse à leurs questions et être bénies par la force spirituelle conjuguée de toutes les sœurs. La société de secours prouve la véritable nature éternelle des filles de Dieu. C'est une institution sacrée, une lumière et un guide qui permet de veiller sur les femmes, de les instruire et de les inspirer pour qu'elles soient fortes et inébranlables. Sa devise, « La charité ne périt jamais », est incarnée par toutes les femmes justes. Quand une jeune fille passe à la société de secours ou quand une femme se fait baptiser, elle entre dans un groupe qui va l'aider à se préparer à la vie éternelle. L'entrée à la société de secours signifie qu'une femme est en mesure d'apporter de grandes contributions dans l'Église. Elle continue sa progression individuellement, sans recevoir beaucoup de récompenses ou de reconnaissance de l'extérieur. Elisa R. Snow, deuxième présidente générale de la société de secours, a dit aux sœurs, « Nous voulons être de véritables dames, pas selon la définition que le monde donne aux mots, mais pour être les dignes compagnes des dieux et des saints. Dans notre organisation, nous pouvons nous aider mutuellement, non seulement à faire le bien, mais aussi à nous raffiner, et qu'il y en ait peu ou beaucoup qui s'avancent et aident à faire progresser cette grande œuvre, ce seront elles qui rempliront des postes honorables dans le royaume de Dieu. Les femmes doivent être des femmes, non des bébés qui ont besoin d'être cajolées et corrigées tout le temps. Je sais que nous aimons être appréciées, mais si nous ne sommes pas appréciées comme nous pensons devoir l'être, quelle importance ? Nous savons que le Seigneur nous a donné de grandes responsabilités. Il n'y a pas un souhait ni un désir implanté en justice dans notre cœur par le Seigneur qui ne sera pas réalisé. Et la meilleure chose que nous puissions faire à nous-mêmes et les unes aux autres, c'est de nous raffiner et de nous cultiver dans tout ce qui est bien et ennoblissant pour nous qualifier pour ces responsabilités. Les femmes justes ont toujours le désir de savoir si elles réussissent. Dans un monde où la mesure de la réussite est souvent déformée, il est important de rechercher l'appréciation et la confirmation auprès de bonnes sources. Pour paraphraser une liste qui se trouve dans Prêcher mon Évangile, nous sommes sur la bonne voie quand nous acquérons les qualités de Jésus-Christ et quand nous nous efforçons d'obéir à tout son Évangile. Nous sommes sur la bonne voie quand nous cherchons à nous améliorer, à faire de notre mieux. Nous sommes sur la bonne voie quand nous accroissons notre foi et notre justice, fortifions la foyer et le foyer et recherchons aider les gens dans le besoin. Nous savons que nous réussissons si notre vie nous qualifie pour recevoir l'Esprit et si nous savons comment le suivre. quand vous avez fait de votre mieux, vous risquez toujours de connaître des déceptions, mais vous ne serez pas déçu de vous-même. Vous pouvez avoir la certitude que le Seigneur est satisfait lorsque vous sentez l'Esprit agir par votre intermédiaire. La paix, la joie et l'espérance sont pour toutes. Une révélation du livre de Joël dit que dans les derniers jours, des fils et des filles de Dieu prophétiseront et que le Seigneur répandra son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Spencer W. Kimball a rappelé cette prophétie quand il a dit « La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde, qui ont souvent une grande spiritualité, se joindront en grand nombre à l'Église. » Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église se montreront justes et s'exprimeront bien et où elles seront perçues comme différentes des autres femmes, dans le bon sens du terme. C'est ainsi que les modèles féminins de l'Église seront une force importante, tant pour l'accroissement numérique que pour la croissance spirituelle de l'Église dans les derniers jours. Je témoigne que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Le Seigneur a besoin que ses filles fassent leur part en fortifiant les foyers de Sion et en édifiant son royaume sur la terre. Si elles recherchent la révélation personnelle et se qualifient pour cela, le Seigneur répandra son esprit sur ses servantes en ces derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This is a troubled world.
Le monde est tourmenté. Il y a partout des dissensions et des catastrophes. On a parfois l'impression que l'humanité elle-même ne tient qu'à un fil. Les catastrophes naturelles font des ravages. Les cieux trembleront et la terre aussi. Il y aura de grandes tribulations parmi les enfants des hommes. Mais je préserverai mon peuple. C'est une promesse faite par le Seigneur qui doit nous apporter un grand réconfort. Même si les catastrophes chamboulent complètement le cours normal de notre vie, elles ne doivent pas forcément nous anéantir de manière durable. Elles peuvent nous inciter à nous souvenir de notre devoir, nous éveiller au sentiment de notre devoir envers Dieu et nous aider à rester sur le chemin de notre devoir. En Hollande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la famille Casper Ten Boom a caché dans sa maison des personnes recherchées par les nazis. C'était sa façon de vivre sa foi chrétienne. 4 membres de la famille ont perdu la vie pour avoir fait cela. Corrie Ten Boom et sa sœur Betsy ont passé des mois atroces dans le terrible camp de concentration de Ravensbrück. Betsy est morte. Corrie a survécu. À Ravensbrück, Corrie et Betsy ont appris que Dieu nous aide à pardonner. Après la guerre, Corrie a décidé de prêcher ce message. Un jour, elle venait de parler en Allemagne à un groupe de personnes qui souffraient des ravages de la guerre. Le thème de son discours était « Dieu pardonne ». C'est alors que la fidélité de Corrie s'est transformée en bénédiction. Un homme s'est approché d'elle. Elle l'a reconnu. C'était l'un des gardes les plus cruels du camp. « Vous avez parlé de Ravensbrück dans votre discours », a-t-il dit. « J'étais garde dans ce camp. Mais depuis, je suis devenu chrétien. » Il expliqua qu'il avait demandé pardon à Dieu pour les choses cruelles qu'il avait faites. Il lui a tendu la main et a demandé « Voulez-vous me pardonner ?» Corrie Ten Boom dit ensuite « Je ne pense pas qu'il soit resté debout là plus de quelques secondes la main tendue, mais il m'a semblé que cela durait des heures. » tandis que je luttais pour faire la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Le message que Dieu pardonne s'accompagne d'une condition, que nous pardonnions à ceux qui nous ont fait du mal. J'ai fait une prière silencieuse. Aide-moi. Je peux tendre la main. Je peux aller jusque-là. À toi d'y mettre le sentiment. Avec raideur, mécaniquement, j'ai mis ma main dans celle qui m'était tendue. À ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un courant est parti de mon épaule, a parcouru mon bras et a jailli dans nos mains jointes. Ensuite, il m'a semblé qu'une chaleur guérisseuse envahissait mon corps tout entier, me faisant venir les larmes aux yeux. « Je vous pardonne, mon frère, me suis-je crié de tout mon cœur. » Nous sommes restés un long moment, les mains serrées. Lui, l'ancien garde, et moi, l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais connu l'amour de Dieu aussi intensément. Pour les personnes qui évitent le mal et mènent une vie de bonté, qui s'efforcent de créer un jour meilleur et respectent les commandements de Dieu, les choses peuvent s'améliorer jour après jour, même face à la tragédie. Le Sauveur nous a montré la voie. Après Gethsémané, la croix et le tombeau, il s'est levé triomphant, nous apportant à tous la vie et l'espoir. Aujourd'hui, comme il l'a fait dans la condition mortelle, il nous lance l'invitation. Viens et suis-moi. Le président Monson nous a donné ce conseil. Si nous voulons marcher la tête haute, nous devons apporter notre contribution à la vie. Si nous voulons accomplir notre destinée et retourner vivre auprès de notre Père Céleste, nous devons respecter ses commandements et modeler notre vie sur celle du Sauveur. En agissant ainsi, non seulement nous atteindrons notre but, qui est la vie éternelle, mais nous laisserons aussi le monde plus riche et meilleur que si nous n'avions pas vécu et accompli notre devoir. Dans la Sainte Bible, nous trouvons ces mots inspirés. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le devoir de tout homme. Qu'appelle-t-on le devoir? Le devoir dont je parle est ce que nous sommes censés faire et être. C'est un impératif moral qui exige de tout individu et de toute communauté ce qui est juste, vrai et honorable. Il n'exige pas la perfection, mais il exige la diligence. Ce n'est pas simplement ce qui est légal, c'est ce qui est vertueux. Il n'est pas réservé aux puissants ni aux grands de ce monde. C'est au contraire un fondement de responsabilité personnelle, d'intégrité et de courage. Faire son devoir est une manifestation de la foi. Le président Monson a dit à ce sujet, « J'aime et je chéris le noble mot « devoir ». Pour les membres de l'Église de Jésus-Christ, le chemin du devoir consiste à respecter leurs alliances tous les jours de leur vie. Envers qui et envers quoi avons-nous un devoir? Premièrement, nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu, notre Père éternel. Il est l'auteur du plan de salut, le créateur des cieux et de la terre, d'Adam et Ève. Il est la source de toute vérité, la personnification de l'amour et la raison pour laquelle il y a une rédemption. Joseph F. Smith a dit, « Tout ce que nous avons vient de Dieu. De par nous-mêmes, nous ne sommes qu'un tas d'argile inanimée. La vie, l'intelligence, la sagesse, le jugement, la capacité de raisonner sont tous des dons de Dieu aux enfants des hommes. Il nous donne notre force physique et nos capacités mentales. Chaque être humain devrait sentir au plus profond de son cœur qu'il doit au Dieu Tout-Puissant son être et les attributs. Honorer Dieu par notre intelligence, notre force, notre compréhension, notre sagesse et tout ce que nous possédons comme capacité. Nous cherchons à faire le bien dans ce monde, c'est notre devoir. Personne ne peut le faire envers Dieu le Père sans faire de même envers le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Rédempteur et notre Roi. Si l'on révère l'un, on doit révérer l'autre, car le Père a décidé que c'est seulement par le nom du Christ que l'on peut entièrement s'acquitter de ce devoir. Il est notre modèle, notre Rédempteur, notre Roi. Lorsque les hommes, les femmes, les garçons et les filles remplissent leur devoir envers Dieu, ils se sentent poussés à remplir leur devoir l'un envers l'autre, leur famille, leur église, leur pays et tout ce qui leur a été confié. Ils sont tenus de magnifier leurs talents et d'être bons et respectueux de la loi. Ils deviennent humbles, soumis, faciles à supplier. La modération remplace le laisser-aller. L'obéissance guide leur diligence. La paix se distille en eux. Les citoyens deviennent honnêtes. Les collectivités deviennent bienveillantes. Et les voisins deviennent des amis. Le Dieu des cieux est satisfait. La terre est pacifiée. Et le monde devient un endroit meilleur. Comment savoir où se trouve notre devoir au milieu d'une crise? Par la prière. C'est la meilleure façon pour tous de savoir. C'est la bouée de sauvetage pour tous ceux qui veulent atteindre les cieux. L'apôtre Pierre a dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. » La prière humble, sincère et inspirée nous permet d'obtenir l'aide divine dont nous avons si désespérément besoin. Brigham Young a donné ce conseil. Quelquefois, les hommes sont perplexes, soucieux et inquiets. Cependant, notre raison nous enseigne qu'il est de notre devoir de prier. Jésus enseignait, « Vous devez toujours veiller et prier de peur d'entrer en tentation, car Satan désire vous avoir, afin de vous passer au crible comme le biais. C'est pourquoi vous devez toujours prier le Père en mon nom. Et tout ce que vous demanderez de juste au Père en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera donné. Priez le Père dans vos familles toujours en mon nom, afin que vos épouses et vos enfants soient bénis. Pour que nos prières soient efficaces, elles doivent être en harmonie avec le plan des cieux. La prière de la foi porte des fruits quand cette harmonie existe, et elle existe quand les prières sont inspirées par le Saint-Esprit. L'Esprit nous montre ce que doit être notre prière. Sans cette inspiration, nous avons tendance à demander mal, dans le but de satisfaire nos besoins, et non la volonté de Dieu. Il est tout aussi important d'être guidé par le Saint-Esprit quand nous prions que lorsque nous recevons la réponse à nos prières. Ces prières apportent les bénédictions des cieux, parce que notre Père sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions, et il répond à toutes les prières sincères. En fin de compte, c'est le Père et le Fils qui promettent « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Je témoigne que le chemin de notre devoir est clairement indiqué par une foi totale en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et par le pouvoir de la prière. Ce chemin doit être parcouru par tous les enfants de Dieu qui l'aiment et désirent respecter ses commandements. Ce chemin amène les plus jeunes à l'épanouissement et à la préparation personnelle. Il mène les adultes à une foi et une résolution renouvelée. Il permet aux plus âgés d'acquérir une perspective et les aide à rester justes jusqu'à la fin. Il équipe chaque voyageur fidèle en lui donnant la force du Seigneur, le protège des maux de l'époque et le dote de la connaissance que la fin du discours est « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là le devoir de tout homme. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Brothers and sisters, the choir and congregation.
Nous allons maintenant avoir le plaisir. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter vers Sion, cité promise. Après le cantique, Wilford W. Anderson et 70 nous adressera la parole. Après quoi, nous entendrons M. Russell Ballard du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite « Il envoya son fils aimé ».
This is the 180th annual general conference.
Vous assistez à la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you.
Il y a des années, j'ai visité Novo dans l'Illinois avec ma famille. C'est là que les premiers saints vinrent chercher refuge. Beaucoup d'entre eux perdirent leur maison et leur ferme, et certains leurs proches à cause des persécutions croissantes. À Novo, ils se rassemblèrent et construisirent une belle ville. Mais les persécutions ne connurent pas de trêve. Et en 1846, ils furent à nouveau contraints de partir de chez eux, au cœur de l'hiver cette fois-là. Ils firent une file de chariots dans Palace Street, attendant leur tour pour traverser l'eau gelée du Mississippi, sans savoir ce qu'ils attendaient. Tandis que nous étions dans Palace Street à méditer sur leur situation désespérée, mon regard a été attiré par une série de pancartes de bois clouées à des poteaux de clôture où étaient gravés des passages des journaux personnels de ces malheureux saints. En lisant une citation après l'autre, nous sommes aperçus à notre grand étonnement que ce que nous lisions n'était pas des paroles de désespoir, de découragement, mais de confiance et d'engagement, voire de foi. Ils étaient pleins d'espoir. Espoir, dans cette citation du journal de Sarah de Hammond Rich, se fait l'écho en février 1846. Je cite, « Entreprendre un tel voyage en hiver serait, pourrait-on croire, se mettre dans la gueule de la mort. Mais nous avions la foi, et nous nous réjouissions de savoir que le jour de notre délivrance était venu. » Fin de citation. Ces premiers saints étaient effectivement sans abri, mais pas sans espoir. Ils avaient le cœur brisé, mais leur morale était excellente. Ils avaient appris une grande et importante leçon, à savoir que l'espérance, avec les bénédictions de paix et de joie qu'elle accompagne, ne dépend pas des circonstances. Ils avaient découvert que la véritable source d'espoir, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son expiation infinie. La seule fondation sûre sur laquelle édifier une vie. Aujourd'hui, un autre groupe de pionniers illustre ce principe important. Le mardi 12 janvier, un très fort tremblement de terre a frappé Haïti. Il a laissé Port-au-Prince, la capitale, en ruine. Il a eu des effets dévastateurs. On estime à 1 million le nombre de personnes laissées sans abri et à 200 000 celui des morts. Tandis que le monde entier suivait les réactions internationales sans précédent, un autre effort remarquable et inspirant de sauvetage se produisait à Port-au-Prince. Il était dirigé par un comité composé de dirigeants locaux de l'Église de Haïti, organisé sur le modèle de la prêtrise et fonctionnant suivant l'inspiration. Entre autres membres, le comité comprenait les deux présidents de Pieux et les deux présidents de la société de secours de Pieux de Port-au-Prince et le président de mission qui, à 30 ans, dirige 74 missionnaires à plein temps dans la mission de Port-au-Prince. Tous ces missionnaires sont haïtiens et par miracle, aucun n'a été blessé dans ce tremblement de terre dévastateur. Les ressources de l'Église ont été mises à la disposition de ses dirigeants locaux inspirés. Ressources qui comprenaient les contributions généreuses de beaucoup d'entre vous. Pour cette contribution, les habitants d'Haïti sont profondément reconnaissants. Sous la direction du comité, des camions chargés de provisions sont arrivés presque immédiatement de République dominicaine. Dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, des avions chargés de nourriture, de purificateurs d'eau, de tentes, de couvertures, de fournitures médicales et une équipe de médecins sont arrivés. La plupart de 9 églises de Port-au-Prince et des alentours n'ont subi aucun dommage, ce qui est un autre miracle remarquable. Pendant les semaines qui ont suivi le tremblement de terre, elles sont devenues des abris pour les plus de 5000 Haïtiens et les bases d'où la nourriture et l'eau ont été distribuées et les soins médicaux dispensés. Il a été pourvu aux besoins de base, et l'ordre a commencé à émerger du chaos. Malgré leur immense souffrance, les saints haïtiens sont pleins d'espoir pour l'avenir. Tout comme les premiers pionniers de 1846, ils ont le cœur brisé, mais leur morale est excellente. ils enseignent, eux aussi, que l'espoir, le bonheur et la joie ne viennent pas des circonstances, mais de la foi au Seigneur. Le prophète Mormon, qui a lui aussi vécu des situations difficiles, comprenait et enseignait clairement cette doctrine. Et en outre, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler de l'espérance. Voici que je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance. Car sans la foi, il ne peut y avoir l'espérance. L'espérance vient de la foi en Jésus-Christ. Il a déjà vaincu le monde et a promis qu'il essuierait nos larmes. Du moment que nous nous tournons vers lui, croyons en lui et le suivons. Certains qui en ce moment sont désespérés ou découragés se demandent peut-être comment ils pourraient bien retrouver l'espérance. Si c'est votre cas, rappelez-vous que l'espérance vient en résultat de la foi. Si nous voulons avoir plus d'espérance, nous devons développer notre foi. La foi au Sauveur exige plus qu'une simple croyance. L'apôtre Jacques a enseigné que les démons croient aussi et tremblent. Mais la vraie foi requiert des œuvres. La différence entre les démons et les membres fidèles de l'Église n'est pas une question de croyance, mais d'œuvres. La foi grandit quand on respecte les commandements. Nous devons travailler à respecter les commandements. Dans le dictionnaire de la Bible, nous lisons, je cite, « Les miracles ne produisent pas la foi, mais on acquiert une foi forte en obéissant à l'évangile de Jésus-Christ. » Autrement dit, la foi vient de la justice. Fin de citation. Lorsque nous nous efforçons de respecter les commandements de Dieu, en nous repentant de nos péchés et en promettant de faire de notre mieux pour suivre le Sauveur, nous commençons à avoir plus confiance que tout ira bien grâce à l'expiation. Ces sentiments sont confirmés par le Saint-Esprit, qui nous ôte ce que nos pères et mères pionniers appelaient nos soucis inutiles. Malgré nos épreuves, nous éprouvons un bien-être complet, et nous avons envie de chanter avec eux qu'en fin de compte, tout est bien. Je n'ai pas l'intention de minimiser la réalité de la dépression pathologique. Certains trouvent une solution à la dépression, aux inquiétudes, en consultant des spécialistes compétents. Mais pour la plupart d'entre nous, la tristesse et la peur commencent à disparaître et sont remplacées par le bonheur et la paix quand nous faisons confiance à l'auteur du plan du bonheur et quand nous acquérons la foi au prince de la paix. Récemment, un de mes chers amis est mort d'un cancer. Sa famille et lui ont une grande foi. Le soutien que leur foi leur a apporté pour traverser cette période très difficile était inspirant. Ils étaient remplis d'une foi intérieure qui les soutenait et les fortifiait. Avec leur permission, je vais lire un extrait d'une lettre qu'un membre de cette famille a écrite quelques jours avant le décès de son père. Je cite. Les derniers jours ont été particulièrement difficiles. Le dernier soir où nous sommes réunis au chevet de papa, l'Esprit du Seigneur était palpable. Il nous a apporté un grand réconfort. Nous sommes en paix. Cela a été la chose la plus dure que chacun de nous ait jamais vécue. Mais nous sommes en paix, sachant que notre Père Céleste a promis que nous vivrons de nouveau, ensemble, en famille. Après avoir dit à papa qu'il n'y avait plus rien à faire, le médecin nous a tous regardés, plein d'une foi parfaite, nous a demandé hardiment, « Quelqu'un ici présent a-t-il un problème avec le plan du salut ?» Nous n'en avons pas. Et nous sommes reconnaissants d'avoir un père et une mère qui nous a appris à avoir parfaitement confiance dans le plan. Fin citation. Je m'adresse à toutes les personnes qui souffrent, qui sont en deuil, et à toutes celles qui ont ou qui auront encore des épreuves, des difficultés ici-bas. Mon message s'adresse à tous les gens qui se font du souci, ont peur ou sont découragés. Il n'est que l'écho, le rappel des instructions constantes et réconfortantes d'un père aimant à ses enfants depuis le début du monde. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle, sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'a aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Je témoigne de lui. Je témoigne qu'il a vaincu le monde et qu'il ne nous oubliera ni ne nous abandonnera jamais, car il nous a gravés sur les paumes de ses mains. Je témoigne que les personnes qui respectent ses commandements progresseront en foi et en espérance. Elles recevront la foi nécessaire pour vaincre toutes les épreuves de la vie. Elles connaîtront la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Brothers and sisters, 6 months ago,
frères et sœurs, il y a 6 mois, lors de la session de la prêtrise de la conférence générale, je me suis adressé aux pères et aux fils. Comment pouvait s'y attendre? Mes 5 filles, mes 24 petites filles et mes arrière-petites-filles de plus en plus nombreuses m'ont demandé un discours équivalent. Aujourd'hui, je vais donc m'adresser principalement aux mères et aux filles de l'Église. Ma chère épouse Barbara a eu une influence d'une portée éternelle sur nos filles et petites-filles et inversement. Les mères et les filles ont le rôle primordial de s'aider les unes les autres à explorer leur potentiel infini, malgré le travail de sape d'un monde dans lequel la féminité et la maternité sont dénaturées et manipulées. Parlant aux femmes de l'Église, il y a près d'un siècle, Joseph F. Smith a dit « Ce n'est pas aux femmes hors de l'Église de vous guider, mais à vous de diriger le monde, et elle en particulier, en tout ce qui est digne de louange, semblable à Dieu, édifiant et purificateur pour les enfants des hommes. » Sœurs, nous, vos frères, nous ne pouvons pas faire ce qui vous a été divinement attribué depuis la création du monde. Nous aurons beau essayer, nous ne pourrons jamais reproduire vos talents exceptionnels. Il n'y a rien dans ce monde qui soit aussi personnel, aussi enrichissant ou aussi capable de changer une vie que l'influence d'une femme juste. Jeune fille, je sais que certaines d'entre vous n'ont pas de mère avec qui parler de ces sujets. Et beaucoup d'entre vous, femmes, n'ont pas de filles pour le moment. Mais parce que toutes les femmes ont dans leur nature divine à la fois le talent inné et l'intendance d'être mère, la plupart des choses que je vais dire s'appliquent aux grands-mères, aux tantes, aux sœurs, aux belles-mères, aux dirigeantes et autres guides qui comblent ces absences dans les importantes relations mère-fille. Jeune fille, votre mère vous adore. Elle voit en vous les promesses des générations futures. Tout ce que vous accomplissez, tous les obstacles que vous surmontez, la remplissent d'une grande joie. Et de même, vos soucis et vos chagrins deviennent ses soucis et ses chagrins. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes filles et leur donner quelques conseils pour qu'elles profitent au maximum de leur relation avec leur mère. Puis, j'adresserai quelques pensées aux mères pour qu'elles sachent comment exercer la plus grande influence possible sur leurs filles ainsi que sur tous les autres membres de leur famille. Il est malheureusement trop facile d'illustrer la confusion et l'altération de tout ce qui touche à la féminité dans la société contemporaine. Des femmes impudiques, immorales et intempérantes saturent les ondes, monopolisent les magazines et hantent les écrans. Tout cela sous les applaudissements du monde. L'apôtre Paul a parlé de façon prophétique des temps difficiles qui arriveront dans les derniers jours et a précisé un point qui lui a semblé particulièrement dangereux. Des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitée par des passions de toute espèce. La culture populaire actuelle fait souvent passer les femmes pour sottes, légères, insouciantes et sans influence. Elle fait des femmes des objets, est irrespectueuse envers elles, et puis veut faire croire qu'elles ne peuvent laisser leur empreinte sur l'humanité que par la séduction. De loin, le message le plus universellement dangereux que l'adversaire envoie aux femmes sur elles-mêmes. Je vous exhorte donc, mes chères jeunes filles, à ne pas prendre modèle sur la culture contemporaine. S'il vous plaît, suivez le modèle de la femme fidèle qu'est votre mère. C'est elle que vous devez prendre pour modèle, et non des célébrités dont les principes ne sont pas ceux du Seigneur et dont les valeurs ne sont pas le reflet d'une vision de l'éternité. Tournez-vous vers votre mère. Tirez des leçons de ses points forts, de son courage, de sa fidélité. Écoutez-la. Elle n'est peut-être pas experte en texto. Elle n'est peut-être même pas sur Facebook. Mais pour ce qui est du cœur et des choses du Seigneur, elle est un puits de science. Maintenant qu'approche pour vous le temps où vous allez vous marier et être une jeune mère, c'est elle qui va être votre plus grande source de sagesse. Personne d'autre sur terre ne vous aime de cette façon, ni n'est prêt à faire autant de sacrifices pour vous encourager et vous aider à trouver le bonheur dans cette vie et pour l'éternité. Aimez vos mères, mes jeunes sœurs. Respectez-la, écoutez-la, faites-lui confiance. Elle désire ce qu'il y a de mieux pour vous. Elle se soucie de votre sécurité et de votre bonheur éternel. Alors, soyez gentils avec elle. Soyez patiente avec ses imperfections, car elle en a. Nous en avons tous. Maintenant, je vais m'adresser à vous, les mères, pour vous parler du rôle spécial que vous jouez dans la vie de vos filles. Nous avons une famille de notre famille qui emmène souvent en voyage avec elle des membres de sa parenté. La remarque importante qu'elle a faite après chaque voyage est que les jeunes filles se conduisent tout à fait comme leur mère. Si les mères sont économes, les filles le sont aussi. Si les mères sont pudiques, les filles le sont aussi. Si les mères portent des tongs ou d'autres vêtements négligés pour assister à la réunion de Sainte-Seine, les filles le font aussi. Mère, l'exemple que vous donnez à vos filles est extrêmement important, même si elles ne l'avouent pas. Tout au long de l'histoire du monde, les femmes ont toujours transmis les valeurs morales. Cet enseignement commence au berceau et continue pendant toute la vie de leurs enfants. De nos jours, notre société est assaillie de messages sur la féminité et la maternité qui sont dangereusement et méchamment faux. Écouter ces messages peut conduire vos filles sur le chemin du péché et de l'autodestruction. Vos filles risquent de ne pas comprendre cela si vous ne leur expliquez pas. Ou mieux, si vous ne leur montrez pas comment faire de bons choix. En tant que mère en Israël, vous êtes pour vos filles leur première ligne de défense contre les artifices du monde. Cependant, chère mère, je sais que, quelquefois, il vous semble que vos enfants n'écoutent pas les leçons que vous essayez de leur donner. Croyez-moi, je connais le regard inexpressif qui se lit dans les yeux d'un adolescent lorsque vous en arrivez à ce que vous pensez être la meilleure partie de votre enseignement. Je vous assure que même lorsque vous pensez que votre fille n'écoute rien de ce que vous dites, elle apprend de vous en observant si vos actes correspondent à vos paroles. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Enseignez à vos filles à trouver de la joie à élever les enfants. C'est dans ce domaine que leur amour et leur talent auront le plus grand impact éternel. Dans ce contexte, réfléchissez à la recommandation d'Harold Billy. La partie la plus importante de l'œuvre que vous pourrez accomplir sera celle que vous accomplirez dans votre foyer. Cela est vrai pour nous tous, bien sûr, mais c'est particulièrement puissant quand on parle des relations entre mère et fille. Mère, enseignez à vos filles qu'une fille fidèle de Dieu évite la tentation de faire des commérages et de juger les autres. Dans un sermon adressé à la Société de secours de Nauvoo, Joseph Smith, le prophète, a expliqué aux sœurs, « La langue est un membre indiscipliné. Gardez le silence sur les choses qui n'ont pas d'importance. » Ces dernières années, il y a de nombreux articles, livres et films parlant de femmes et de filles qui font des commérages et qui sont méchantes. Satan essaie constamment de saper l'élément le plus précieux de la nature divine de la femme, sa capacité d'élever. La relation mère-fille permet à une fille d'apprendre comment élever en étant elle-même élevée. Elle reçoit de l'amour, on lui enseigne et elle fait l'expérience personnelle de ce que signifie être aimée suffisamment par quelqu'un qui est capable de la corriger, tout en continuant à l'encourager et à croire en elle. Sœur, souvenez-vous que Dieu est la source de tout pouvoir moral et spirituel. Nous avons accès à ce pouvoir en faisant alliance avec lui et en respectant ses alliances. Mère, enseignez à vos filles l'importance de faire des alliances, puis montrez-leur comment respecter ces alliances, de sorte qu'elles aient le désir de vivre de façon à être dignes d'aller au temple. Dans le monde actuel, cela signifie que vous devez parler à vos filles de la sexualité. Vos filles et vos fils deviendront majeurs dans un monde qui les encourage ouvertement à des relations sexuelles précoces, désinvoltes et inconsidérées. On porte au nu des femmes impudiques et lascives, et trop souvent on les encense et on les imite. Même si nous pouvons prendre des mesures pour éviter de nous exposer à ces éléments peu recommandables de la vie contemporaine au sein de notre foyer et de notre famille, nos filles ne peuvent pas totalement éviter les messages et les incitations sexuelles éhontées qui les entourent. Vous devez avoir de fréquentes discussions au cours desquelles vous enseignez à vos filles la vérité sur ces sujets. Par exemple, elles doivent comprendre que lorsqu'elles portent des vêtements trop ajustés, trop courts ou trop décolletés, non seulement elles envoient un faux message aux jeunes gens qu'elles fréquentent, mais elles entretiennent également dans leur esprit l'idée erronée que la valeur d'une femme dépend uniquement de son sex appeal. Cela n'a jamais été et ne sera jamais la définition d'une fille de Dieu fidèle. Elles ont besoin d'entendre cela de votre part, clairement et de manière répétée, et elles ont besoin d'en voir le modèle correct et systématique dans votre propre façon de vous habiller, de vous présenter et dans votre comportement pudique. Tous les jeunes auront plus de chances de contracter et de respecter des alliances s'ils apprennent à reconnaître la présence et la voix de l'Esprit. Enseignez à vos filles les choses de l'Esprit. Renvoyez-les aux Écritures. Donnez-leur l'occasion de faire des expériences qui les aideront à chérir la bénédiction qu'est le pouvoir de la prêtrise dans leur vie. En respectant les alliances, elles apprendront à écouter la voix du Seigneur et à recevoir la révélation personnelle. Dieu écoutera vraiment leurs prières et y répondra. Le thème des activités d'échange pour 2010 s'applique aux jeunes, ainsi qu'à nous tous. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il les guidera sains et saufs jusqu'aux bénédictions du temple. Faites en sorte qu'elles sachent que le chemin le plus sûr vers le bonheur éternel passe par le respect des alliances. Et si nécessaire, enseignez-leur comment se repentir et rester purs et dignes. Maintenant, si vous pensez déjà avoir entendu cela, mes frères et sœurs, c'est parce que j'ai parlé aux parents et aux enfants pendant 3 conférences générales de suite. En avril de l'année dernière, j'ai recommandé aux jeunes de tirer les leçons du passé. Je cite une partie de ce discours. Quand vous êtes disposé à écouter et à apprendre, certains des enseignements les plus importants de la vie viennent des personnes qui vous ont précédé. Combien votre vie sera meilleure si vous voulez suivre le noble exemple des disciples fidèles du Christ. En octobre dernier, j'ai parlé aux pères et aux fils au cours de la session de la prêtrise, et aujourd'hui, je me suis adressé principalement aux mères et aux filles. À chaque fois, mon message a été différent, mais dans la même veine. J'espère que vous écoutez, que vous voyez le fil conducteur et que vous entendez le message constant, toujours le même, qu'il est essentiel et même crucial en ces derniers jours, que les parents et les enfants s'écoutent et apprennent les uns des autres. Ce ne sont pas des concepts abstraits dont je viens de vous parler. C'est l'essence même, le cœur du plan de Dieu pour notre bonheur et notre paix éternelle. L'Église apportera son aide chaque fois que c'est possible. Nous sommes là pour vous soutenir en tant que parents et enfants. Mais c'est le foyer qui est l'endroit le plus important pour préparer les jeunes d'aujourd'hui à diriger les familles et l'Église de demain. C'est notre responsabilité à chacun, mères et pères, de faire tout ce que nous pouvons pour préparer les jeunes à être des hommes et des femmes fidèles et justes. C'est au foyer que nous devons enseigner l'Évangile par le précepte et par l'exemple. Je termine mes recommandations par ce résumé prophétique de Joseph F. Smith. Nos relations familiales ne sont pas conçues exclusivement pour cette vie, pour le temps tel que nous le distinguons de l'éternité. Nous vivons pour le temps et toute l'éternité. Nous établissons des relations pour le temps et toute l'éternité. Quels sont ceux, à part les saints des derniers jours, qui envisagent la pensée qu'au-delà du tombeau, la cellule familiale continuera? Le père, la mère, les enfants se reconnaissant les uns les autres? Cette cellule familiale étant un élément de la grande et parfaite organisation de l'œuvre de Dieu, étant destinée à perdurer pendant le temps et l'éternité. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions enseigner, élever et nous préparer mutuellement au sein de notre foyer pour la grande œuvre qui doit être accomplie par nous tous maintenant et dans l'avenir. C'est là ma prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
How beautiful.
C'était si beau. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin et à toutes les personnes qui nous ont parlé. Notre dernier orateur sera Henri Behring, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur chantera « Quel fondement ferme ». Ensuite, Eric W. Kopischke, T70, fera la prière de clôture et la conférence sera suspendue jusqu'à 14 heures cet après-midi.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, notre Père Céleste veut que nous l'aidions à ramener ses enfants d'esprit auprès de lui et a besoin de notre aide. Aujourd'hui, je parle des jeunes qui sont déjà dans sa vraie Église et qui ont donc commencé leur voyage de retour vers leur foyer céleste sur le sentier étroit et resserré. Il veut qu'ils acquièrent tôt la force spirituelle nécessaire pour rester sur le sentier. Et il a besoin de notre aide pour les reconduire rapidement sur le chemin s'ils commencent à errer. Lorsque j'étais jeune évêque, j'ai commencé à voir clairement pourquoi le Seigneur veut que nous fortifions les enfants lorsqu'ils sont jeunes et que nous venions rapidement à leur secours. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune personne qui représente les nombreux autres que j'ai essayé d'aider au fil des ans. Elle s'est assise en face de mon bureau d'évêque. Elle m'a parlé de sa vie. Elle avait été baptisée et confirmée membre de l'Église à l'âge de 8 ans. Aucune larme ne brillait dans ses yeux, tandis qu'elle racontait les 20 ans et plus qui avaient suivi. Mais il y avait de la tristesse dans sa voix. Elle a expliqué qu'elle s'était engagée sur la mauvaise pente quand elle avait décidé de côtoyer des personnes qui, pensait-elle, étaient passionnantes. Elle avait commencé à enfreindre ce qui lui paraissait à première vue être les commandements les moins importants. Elle avait d'abord éprouvé un peu de tristesse et une pointe de culpabilité. Mais les moments passés avec ses amis lui donnait le sentiment nouveau d'être apprécié, et de ce fait, ses résolutions occasionnelles de se repentir lui semblaient de moins en moins importantes. À mesure que la gravité de ses infractions au commandement augmentait, le rêve d'un foyer éternel heureux semblait s'effacer. Assise en face de moi, elle se disait malheureuse. Elle voulait que je la fasse sortir du piège du péché, dans lequel elle avait l'impression d'être emprisonnée. Mais le seul moyen qu'elle avait de s'en sortir était d'exercer sa foi en Jésus-Christ, d'avoir le cœur brisé, de se repentir, et ainsi d'être purifiée, changée et fortifiée par l'expiation du Seigneur. Je lui ai rendu témoignage que c'était possible, et cela était possible, mais tellement plus difficile que si elle avait exercé plus tôt sa foi dans la vie pour son voyage de retour vers Dieu et lorsqu'elle avait tout juste commencé à errer. Ainsi, nous aidons le mieux les enfants de Dieu quand nous leur fournissons des moyens d'augmenter leur foi en Jésus-Christ et en son évangile rétabli lorsqu'ils sont jeunes. Puis, s'ils s'écartent du sentier, nous devons les aider à raviver rapidement cette foi avant qu'elle ne s'éteigne. Vous et moi pouvons donc nous attendre à avoir continuellement des occasions d'aider des voyageurs parmi les enfants de Dieu. Le Sauveur nous a dit pourquoi il en serait ainsi lorsqu'il a décrit le voyage périlleux que tous les enfants d'Esprit de Dieu doivent faire pour retourner à lui, malgré les brouillards créés par le péché et par Satan. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Prévoyant les besoins de ses enfants, notre Père Céleste aimant a placé des panneaux indicateurs et des sauveteurs le long de leur chemin. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que le passage sûr soit possible et visible. Il a appelé, en tant que prophète à notre époque, Thomas S. Monson. Depuis sa jeunesse, le président Monson enseigne non seulement comment rester sur le sentier, mais aussi qu'il faut secourir les personnes qui ont été conduites vers le chagrin. Notre Père Céleste nous a placés à un grand nombre de postes différents pour que nous fortifions les voyageurs et, si besoin est, que nous les conduisions en lieu sûr. Nos responsabilités les plus importantes et les plus déterminantes se trouvent dans la famille. Elles sont importantes car la famille a la possibilité, au début de la vie de l'enfant, d'affermir ses pas sur le chemin qui mène à son foyer céleste. Les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les tantes, les oncles, sont des guides et des sauveteurs plus efficaces grâce aux liens d'amour qui caractérisent naturellement la famille. La famille a un avantage les 8 premières années de la vie de l'enfant. Dans ces années protégées, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, l'utilisation des brouillards de ténèbres de Satan, destinés à cacher le sentier menant au foyer céleste, est bloquée. Dans ces années précieuses, le Seigneur aide la famille en appelant des personnes à la primaire pour aider à fortifier l'enfant spirituellement. Il permet également que des détenteurs de la prêtrise d'Aaron bénissent et distribuent la Sainte Cène. Dans les prières de Sainte Cène, les enfants entendent la promesse qu'ils peuvent avoir l'Esprit de Dieu s'ils obéissent à ses commandements. De ce fait, ils sont plus forts pour résister à la tentation quand elle se présente, puis plus tard, pour aller eux-mêmes au secours d'autrui. Beaucoup d'évêques de l'Église sont inspirés à appeler à la primaire les membres les plus forts de la paroisse pour qu'ils servent les enfants individuellement. Ils se rendent compte que si les enfants sont affermis avec la foi et le témoignage, il y aura moins de risques qu'ils aient besoin d'être secourus lorsqu'ils seront adolescents. Ils ont conscience qu'un fondement spirituel fort peut faire la différence pendant toute une vie. Nous pouvons tous aider. Les grands-mères, les grands-pères et tous les membres qui connaissent un enfant peuvent aider. Nul besoin d'un appel officiel à la primaire. L'âge non plus n'est pas une condition pour aider. Une femme qui apportait ainsi son aide faisait partie, lorsqu'elle était jeune, du bureau général de la primaire qui a contribué à la création de la devise CLB. Elle ne s'est jamais lassée de servir les enfants. Elle a enseigné à sa demande dans la primaire de sa paroisse jusqu'à ce qu'elle atteigne presque les 90 ans. Les petits-enfants sentaient qu'elle les aimait. Ils voyaient son exemple. Ils apprenaient avec elle les principes simples de l'Évangile de Jésus-Christ. Et surtout, grâce à son exemple, ils apprenaient à ressentir et à reconnaître le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils le faisaient, ils étaient bien engagés sur le chemin de la foi nécessaire pour résister à la tentation. Il y avait moins de risques qu'ils aient besoin d'être secourus, et ils se préparaient à aller au secours d'autrui. Lorsque nos enfants étaient petits, j'ai appris le pouvoir de la foi simple placée dans la prière et le Saint-Esprit. Notre fils aîné n'était pas encore baptisé. Nous, ses parents, ainsi que les instructeurs de la primaire et les serviteurs de la prêtrise, avions essayé de l'aider à ressentir et à reconnaître l'Esprit et à savoir comment recevoir son aide. Un après-midi, ma femme l'avait emmené chez une dame qui lui apprenait à lire. Nous avions prévu que j'aille le rechercher quand je rentrerai du travail. Sa leçon s'est terminée plus tôt que ce que nous pensions. Il était sûr de connaître le chemin du retour. Il a donc commencé à marcher. Il a dit plus tard qu'il était tout à fait sûr de lui et qu'il se faisait une joie d'être seul à faire ce trajet. Après un petit kilomètre de marche, il a commencé à faire sombre. Il a pris conscience qu'il était encore très loin de chez lui. Il se souvient toujours que les feux des voitures qui passaient à côté de lui étaient flous à cause de ses larmes. Il se sentait petit et n'avait plus le sentiment d'être le garçon confiant qui avait commencé à rentrer chez lui, tout seul à pied. Il se rendait compte qu'il avait besoin d'aide. Il s'est souvenu de quelque chose. Il savait qu'il était censé prier. Alors il a quitté la route et s'est dirigé vers des arbres qu'il voyait à peine dans l'obscurité. Il a trouvé un endroit pour s'agenouiller. À travers les buissons, il a entendu des voix qui s'approchaient de lui. Deux jeunes personnes l'avaient entendu pleurer. Lorsqu'elles sont arrivées près de lui, elles lui ont demandé « Est-ce qu'on peut t'aider ?» À travers ses larmes, il leur a dit qu'il était perdu et qu'il voulait rentrer chez lui. Ils lui ont demandé s'il connaissait son numéro de téléphone ou son adresse, mais il ne les connaissait pas. Ils lui ont demandé s'il connaissait son nom. Elles l'ont emmené chez elles, près de là. Elles ont trouvé notre nom de famille dans un annuaire. Quand j'ai reçu l'appel téléphonique, je me suis précipité à son secours. J'étais reconnaissant que des personnes gentilles aient été placées sur son chemin. Et j'ai toujours été reconnaissant qu'il ait appris à prier avec la foi, qu'il saurait aider s'il était perdu. Cette foi l'a conduit vers la sécurité et lui a amené des sauveteurs plus de fois qu'il ne peut le raconter. Le Seigneur a mis en place un système de secours et de sauveteurs dans son royaume. Dans sa sagesse, il a inspiré ses serviteurs de mettre en place les façons les plus efficaces de nous fortifier, de placer les meilleurs sauveteurs au moment où nous passons par l'adolescence. Vous connaissez deux programmes efficaces que le Seigneur a donnés. L'un pour les jeunes filles s'appelle « Mon progrès personnel ». L'autre, pour les détenteurs de la prêtresse d'Aaron, s'appelle « Le devoir envers Dieu ». Nous invitons les jeunes de la génération montante à voir le potentiel qu'ils ont d'acquérir une grande force spirituelle. Et nous supplions les personnes qui s'occupent de ces jeunes de faire ce que le Seigneur attend d'elles pour les aider. Puisque l'avenir de l'Église dépend de ces jeunes, nous sommes tous concernés. Ces deux programmes ont été améliorés, mais leur objectif reste inchangé. Le président Monson l'a exprimé en ces termes. Nous devons apprendre ce que nous devons apprendre, faire ce que nous devons faire et être ce que nous devons être. Le livret « Mon progrès personnel » indique clairement aux jeunes filles son objectif. Le programme « Mon progrès personnel » utilise les 8 idéaux des jeunes filles pour t'aider à comprendre plus complètement qui tu es, pourquoi tu es ici-bas et ce que tu dois faire en tant que fille de Dieu pour te préparer au jour où tu iras au temple pour contracter des alliances sacrées. Il stipule également que les jeunes filles prendront des engagements, les rempliront et feront rapport de leur progrès à l'un de leurs parents ou à une dirigeante. Il fait aussi la promesse suivante. Les actions que tu mets en place en travaillant à ton progrès personnel, comme la prière, l'étude des Écritures, le service et la tenue d'un journal personnel, deviendront des habitudes personnelles quotidiennes. Ces habitudes fortifieront ton témoignage et t'aideront à apprendre et à progresser tout au long de ta vie. Le programme du devoir envers Dieu des jeunes gens de la prêtresse d'Aaron a été renforcé et condensé. Il sera désormais contenu dans un seul livre simple pour les 3 offices de la prêtresse d'Aaron. Les jeunes et leurs dirigeants recevront un exemplaire de ce nouveau livre. C'est un outil très utile qui fortifiera le témoignage des jeunes gens et leur relation avec Dieu. Il les aidera à apprendre à remplir leurs devoirs de la prêtrise et à vouloir les accomplir. Il resserrera leurs liens avec leurs parents, avec les membres de leur collège et avec leurs dirigeants. Ces deux programmes accordent une grande importance aux efforts des jeunes eux-mêmes. Ils sont invités à apprendre et à faire des choses qui seraient difficiles pour n'importe qui. Je ne me souviens pas avoir eu dans ma jeunesse tant de choses difficiles à faire. Oh oui, à quelques occasions, on m'a demandé de relever ce genre de défi, mais ce n'était que de temps en temps. Ces programmes nécessitent de la constance, beaucoup d'efforts et une accumulation du savoir et des expériences spirituelles au fil des ans. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que les pages de ces livrets sont la représentation matérielle de la confiance que le Seigneur a en la génération montante et en tous ceux d'entre nous qui les hommes. Et j'ai eu la preuve que cette confiance est bien placée. Lors de visites, j'ai vu des collèges de la Patrice d'Aaron en action. J'ai vu des jeunes gens qui apprenaient, qui faisaient des projets pour faire ce que Dieu veut, puis qui faisaient ce à quoi ils s'étaient engagés et parlaient aux autres de la façon dont ils avaient été changés spirituellement. Tandis que je regardais et que j'écoutais, il apparaissait clairement que dans l'assemblée, les pères, les mères, les dirigeants, les amis et même les voisins étaient touchés par l'Esprit. Alors qu'ils écoutaient les jeunes gens témoigner de la façon dont ils avaient été fortifiés. Les jeunes étaient édifiés lorsqu'ils rendaient témoignage, et les personnes qui essayaient de les aider à s'élever l'étaient également. Le programme des jeunes filles comporte les mêmes outils efficaces pour accroître la force spirituelle des jeunes filles, et nous donne l'occasion d'aider. Mon progrès personnel aide les jeunes filles à se préparer à recevoir les ordonnances du Temple. Elles peuvent s'appuyer sur l'exemple des mères, des grands-mères et de toutes les femmes justes qui les entourent à l'Église. J'ai vu comment des parents avaient aidé leurs filles à réaliser ses buts et ses rêves, en remarquant et en appréciant toutes les bonnes choses qu'elles avaient réalisées. Il y a quelques jours seulement, j'ai vu une mère aux côtés de sa fille, lorsqu'elles ont reçu une distinction pour avoir été toutes les deux un exemple de femme ou de jeune fille accomplie. Quand elles m'ont parlé de ce que cela signifiait pour elles, j'ai ressenti l'approbation et l'encouragement du Seigneur pour nous tous. La plus grande des aides que nous pourrons apporter à ces jeunes sera de leur faire sentir que nous sommes confiants qu'ils sont sur le chemin qui les ramènera à Dieu et qu'ils peuvent y arriver. Et la meilleure façon de le faire, c'est de les accompagner. Comme le sentier est raide et parfois rocailleux, ils sont parfois découragés. Il leur arrive même de trébucher. Par moments, il arrive qu'ils se méprennent sur leur destination et qu'ils errent en essayant d'atteindre des buts qui ont moins d'importance dans l'éternité. Ces programmes inspirés réduisent ces risques car ils poussent les jeunes à inviter et à recevoir la compagnie du Saint-Esprit. La meilleure chose que nous puissions dire aux jeunes, c'est qu'ils ne peuvent retourner auprès de notre Père Céleste que s'ils sont guidés et corrigés par l'Esprit de Dieu. Donc, si nous voulons faire preuve de sagesse, nous devons encourager tout ce qui favorise la compagnie du Saint-Esprit, en faire l'éloge et en être un exemple. Lorsqu'ils nous font part de ce qu'ils font et de ce qu'ils ressentent, nous devons nous-mêmes nous être qualifiés pour avoir le Saint-Esprit. Ils sentiront alors l'approbation de Dieu dans nos félicitations et nos sourires. Et si nous ressentons le besoin de les rappeler à l'ordre, ils percevront dans nos paroles notre amour et l'amour de Dieu, et non la réprimande et le rejet qui peuvent permettre à Satan de les éloigner encore plus. L'exemple dont ils ont le plus besoin de notre part, c'est que nous fassions ce qu'ils doivent faire. Nous devons prier pour avoir les dons de l'Esprit. Nous devons méditer sur les Écritures et les paroles des prophètes vivants. Nous devons faire des projets qui ne sont pas seulement des souhaits, mais également des alliances. Ensuite, nous devons tenir nos promesses envers Dieu. Et nous devons édifier les autres en leur permettant de recevoir les bénédictions de l'expiation que nous avons reçues. Notre vie doit être un exemple de la fidélité constante et prolongée que le Seigneur attend. Si c'est le cas, nous les aiderons à avoir par l'Esprit l'assurance que s'ils continuent, ils entendront les paroles suivantes d'un Sauveur et d'un Père Céleste aimant. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et nous, qui les aidons, nous entendrons ces paroles avec joie. Je témoigne que le Seigneur vous aime, vous et chaque enfant de Dieu. Nous appartenons à son royaume qui a été rétabli avec les clés de la prêtrise par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, Thomas Esmondson est le prophète du Seigneur aujourd'hui. Je promets à chacun de vous que si vous suivez les directives inspirées qui se trouvent dans la vraie Église de Jésus-Christ, nos jeunes et nous-mêmes qui les aidons et les aimons, nous pourrons retourner sains et saufs chez nous auprès de notre Père Céleste et du Sauveur pour vivre en famille et dans la joie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
cher Père Céleste, nous te remercions de cette belle conférence, belle réunion de conférence. Père, nous te remercions d'avoir été inspiré par la musique et par la puissance de ta parole. Nous te remercions de ce que nous avons entendu. Nous te remercions d'autant plus de ce que nous avons ressenti. Nous te demandons de nous donner courage de suivre ces inspirations personnelles afin qu'elles puissent avoir un effet qui changera notre vie sur nous. Nous te remercions du rétablissement de ton évangile et du rétablissement de ta prêtrise. Père, pendant ce week-end de Pâques, nous te demandons de nous confirmer la résurrection de ton Fils, afin que cette confirmation brûle dans notre cœur, nous donne la force, la paix, et rayonne de nous et attire vers nous ceux qui recherchent la vérité et le réconfort. De nouveau, nous te remercions des nombreuses bénédictions que nous avons. Et nous le faisons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la première session de la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.